Radio Okapi. Le journal, présenté par Grace Amzati Massandi.
C'est en principe aujourd'hui, mercredi 9 avril, que la rencontre directe entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 doit avoir lieu à Doha au Qatar pour une désescalade des conflits dans la partie est de la RDC. Il y a peu, la médiation qatari a reçu séparément et à huis clos les délégations des deux camps. Pour plusieurs observateurs, ces face à face prévues se situent entre espoir de paix et méfiance persistante entre les deux parties. Bientôt le gouvernement d'Union nationale. Les consultations politiques menées par les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité se sont clôturées ce mardi à Kinshasa. Tous ceux qui ont échangé avec Eberhan Kolongué les préconisent la formation d'un gouvernement capable de résoudre les problèmes des Congolais, notamment la crise sécuritaire dans l'est du pays. Très peu de femmes chefs d'entreprise au Kasaï oriental s'intéressent aux activités de la sous-traitance dans les secteurs privés. Affirmation du directeur provincial de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Muki Mukaya, est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Doha, la capitale du Qatar, doit en principe abriter ce mercredi 9 avril la première rencontre directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Une rencontre cruciale au cœur d'une médiation discrète pilotée par les autorités qataries pour faire avancer les pourparlers. Objectif, ramener la paix dans l'est du pays ravagé par les affrontements entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les détails avec vous, Martial Papimukeba.
Les premiers échanges tenus il y a quelques jours ont eu lieu séparément à huis clos avec des délégations composées principalement des techniciens, experts en renseignement, militaires et spécialistes politiques. Ce mardi marquera un tournant avec une première rencontre en face à face entre les deux camps. Selon plusieurs sources, le M23 AFC a déjà remis à la médiation qatari un cahier des charges détaillant ses revendications et ses préalables pour une éventuelle désescalade. La rébellion réclamerait également des garanties claires sur le pouvoir décisionnel de la délégation de Kinshasa avant d'aborder le cœur des négociations. Cette rencontre pourrait clore la première phase dite des consultations et d'ouverture du contact direct entre les parties. Si les échanges s'avèrent constructifs, les discussions pourraient se poursuivre sur des questions de fond, principes d'un cessez-le-feu, analyse des exigences de l'AFC M23 et conditions du gouvernement. Béni. Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Vous l'aurez certainement compris, notre collègue Martial Papimukeba a voulu parler des mercredis et non des mardis. Entre-temps sur le terrain, le mouvement rebelle AFC M23 continue de renforcer son influence et son administration parallèle dans les entités occupées. C'est notamment dans le territoire des Massis qu'il constate des témoins. Des localités et villages sont transformés en cités ou communes tout en supprimant tous les droits coutumiers, renseignent nos sources. Plusieurs acteurs locaux préviennent que cette restructuration de l'administration et du pouvoir coutumier risque d'engendrer des conflits dans les jours à venir. Le point avec Vicky Odia.
D'après des témoins, plusieurs villages et localités ont changé de statut et d'acteurs, notamment en territoire de Masisi, dans le Nord Kivu. À titre d'exemple, la localité de Luunchi, en groupement Matamba, chefferie de Baoundé, elle est transformée en cité avec de nouvelles autorités. Le village de Rubaya, jadis chef-lieu de la localité Luunchi, devient actuellement une autre cité autonome avec une nouvelle administration. Masisi Centre, qui était une commune rurale sous l'ancienne administration, est ramené au statut de la cité, au même titre que Kichanga, ancien chef-lieu de la chefferie de Bachali. Le village de Kalembe, sur l'axe Masisi-Walikale, est transformé en cité avec de nouveaux acteurs, explique les sources locales. D'après certains notables, cette restructuration qui s'observe dans beaucoup de zones occupées est en train de mettre en péril le pouvoir coutumier. D'autres sources ajoutent que les anciens chefs coutumiers qui refusent de collaborer avec les rebelles sont tués et remplacés par d'autres.
Merci à vous, Vicky Odia. Dans l'actualité, sachez aussi que les consultations politiques initiées par le président de la République par l'entremise de son conseiller spécial en matière de sécurité, Cachemire Eberhan Kolongele, se sont clôturées ce mardi durant 12 jours des regroupements politiques parlementaires, extra-parlementaires de la majorité tout comme de l'opposition, des forces vives de la société civile, religieux et pouvoirs traditionnels ont échangé avec Eberhan Kolongele. Tous ont mobilisé les Congolais à un sursaut patriotique et ont soumis des propositions pour la formation d'un gouvernement à mesure d'y trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire à répétition de la partie est de la RDC. Billy Van Lutumba.
Une fois ouverte à toutes les forces vives, ces consultations se transforment vite en une tribune de libre expression pour la plupart des délégations qui échangent avec Olongele. Illustration avec Lambert Mende, reçu comme personnalité ayant marqué l'histoire politique du pays.
Nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes.
Cet appel au patriotisme revient souvent même chez les opposants comme la jeunesse du FCC, Adolphe Mouzitou, le député d'Ensemble pour la République Iratchan Gracian, Marie-Josée Ifoko et Géry Loubala du parti Nkita.
Si aujourd'hui le président de la République qui est en faute, vous devez savoir que nous allons à payer. Parce que le Congo, c'est nous tous qui constituons les corps politiques ou société civile. La main, c'est l'opposition armée ou non armée. Et les doigts, c'est l'opposition, je ne sais pas quoi. La jambe, c'est l'union sacrée ou consort. Et donc, il est question que nous puissions lever un certain nombre d'options. En toute urgence, moi, je préfère même dire, avant la fin de ce mois d'avril, enfin, de permettre à tout le monde à retrouver son jeu politique.
En ce dernier jour, les experts constitutionnalistes, les centristes, la famille Lumumba, ainsi que plusieurs autres organisations et forces vives sont restés présents jusqu'aux petites heures du matin pour exposer leur point de vue aux consultants désignés par le président de la République, Cachemire Eberhan Kolongele.
Ces consultations ainsi clôturées ces mardis, la suite prévoit en premier lieu le dépôt d'analyse de tous les échanges auprès du président de la République, sa prise en compte et ses délibérés. Tout ceci devra aboutir, selon le vœu des plus d'un, à la formation de ces gouvernements dits d'Union nationale au plus tard avant la fin de ce mois d'avril. Pendant ce temps, d'après la coordination des communications, des échanges informels se poursuivent compte tenu du nombre élevé des sollicitations. Parlons de ce calvaire des Quinois. Vous le savez, plusieurs communes de la capitale sont privées d'eau depuis 5 jours à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville le week-end dernier. C'est notamment le cas de Massina, Kimbantseki et Matete, situées dans l'est de la ville. Les habitants de ces coins de la capitale parcourent de longues distances à la recherche de cette denrée vitale. Certains en trouvent alors que d'autres rentrent bredouis. Plotin Yambenga relate le calvaire de ces familles dans son reportage.
Elles sont plusieurs centaines, ces femmes, hommes et enfants, à la recherche de l'eau depuis samedi. À des bonhommes, à Matete, nous avons rencontré une dizaine de jeunes transportant des bidons vides à la recherche de cette denrée vitale. Certains ne se sont pas lavés depuis 2 jours. La vie devient intenable, explique cette mère que nous avons trouvée en train de faire la vaisselle.
Tellement que l'eau ne jaillit pas. Il n'y a pas moyen de jeter de l'eau là-bas, il n'y a pas moyen de torchonner, il n'y a pas moyen de cuisiner aussi parce que l'eau ne coule pas.
Même scénario à Massina sans fil où lors de notre passage, des femmes se sont battues pour avoir l'eau des forages. Ces jeunes attendent son tour d'épuiser depuis 8 heures. À 15 heures, il était toujours sur la file.
Il y a eu bagarre ici. Deux femmes se sont battues pour l'eau suite à l'incompréhension. Les policiers sont intervenus pour rétablir l'ordre. C'est honteux de voir les femmes se battre pour l'eau. Nous sommes fatigués. Les gens ne peuvent pas se battre pour l'eau car nous en avons en abondance au pays.
À Pascal, à Kimbantseke, plusieurs habitants recourent actuellement à l'eau de la rivière Mokali pour la cuisine et d'autres travaux ménagers. Un pédiatre et médecin sur place dit craindre de la résurgence des maladies hydriques. Au poste de captage de la régie des eaux Angili, les travaux de réparation sont en cours.
Plotin Yambenga sur Radio Kapi. Rappelons que le gouvernement et la régie des eaux ont promis de décanter ces problèmes d'eau de la régie des eaux dans un bref délai. Ils sont plus de 600, ces habitants de Kisenso, sinistrés des dernières pluies. Parmi eux, de nombreux enfants. Ils sont regroupés dans 3 sites dans différents quartiers. Ils ont besoin d'assistance, nous dit Godefroy Atuel, bourgmestre de cette commune. Certains attendent que les eaux baissent pour retourner chez eux, tandis que d'autres n'ont plus d'abri. Godefroy Atuel décrit la situation au micro de Benjamin Moudoumbi.
Nous sommes à 4 morts. 3 sont déjà enterrés. Il nous reste 1 seul. Et les sites sinistrés, nous les avons répartis en 3. Il y a 1 site pour Nidingi, 1 pour anciens combattants et 1 pour Kisenso Gare. Nous avons tenu une réunion d'urgence. Nous avons accueilli les conseillers du BFM de l'Intérieur qui ont consolé les sinistrés et nous ont promis une réaction positive dans un bref délai. Nous avons également reçu la visite des missionnaires des Sœurs de la Charité Caritas. Ils sont venus distribuer du riz, des haricots et autres biens aux sinistrés du site de Kitomessa. La situation évolue tout doucement, mais c'est déplorable. Ce sont des centaines de familles ou des milliers de personnes qui sont sans abri, qui sont vraiment en difficulté. Nous espérons que le gouvernorat va réagir dans sa paix.
Alors, comment éviter les inondations à répétition? Pour la société civile du territoire de Kasangulo, Congo central, l'une des solutions est le curage de la rivière Lukaya qui déborde à chaque grande pluie. Cette recommandation intervient à la suite des dégâts, bien entendu, tant humains que matériels enregistrés après les inondations lors des pluies torrentielles de vendredi à samedi dernier. Selon son coordonnateur, le débordement fréquent de cette rivière est à la base de plusieurs dégâts enregistrés à Kasangulo et dans d'autres parties de la ville de Kinshasa. Jacques Komba ajoute que cela contribue aussi à la dégradation rapide de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Des explications avec Nana Plurich Mambou.
Selon Jacques Komba, coordonnateur de la société civile du territoire de Kasangulu, le système de drainage des eaux est inexistant. Pas de politique de gestion des déchets. La population jette les immondices dans la rivière Lukaya et son lit est parsemé de constructions anarchiques. Ceci est à la base du débordement fréquent de la rivière Lukaya qui crée ensuite des dégâts jusqu'à Kinshasa. Pour prévenir ces incidents, les coordonnateurs de la société civile de Kasangulu recommandent aux autorités ce qui suit.
L'autorité doit être prévoyante. Cela veut dire que prendre des dispositions en amont au lieu que d'attendre les dégâts pour arriver. De un, le curage, n'est-ce pas, de la rivière Lukaya. Les services d'urbanisme et de l'habitat, il ne faut pas bien leur travail. C'est des travaux publics et aménagement du territoire, il ne faut pas bien leur travail. C'est une calamité naturelle, ça peut arriver. Mais toutefois, on pouvait s'épargner. Nous demandons seulement aux autorités de prendre des dispositions des maisons qui sont tout au long de la rivière, de ne plus être là pour épargner des vies humaines.
Les débordements de la rivière Lukaya créent aussi des érosions sur la route nationale numéro 1. Après la pluie du vendredi au samedi 5 avril, une tête d'érosion menaçant de couper cette route en deux s'est formée au niveau du péage de Kasangulu. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Un exemple qui mérite d'être suivi dans d'autres villes du pays. Tenez, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, les volontaires de la Croix-Rouge du Congo section de Beni ont procédé ce mardi à l'assainissement du commissariat urbain de la police. Ils ont nettoyé les cellules du cachot de la police et vidé la colline d'immondices qui s'y trouvait. Nasson Mourara, chargé des communications de la police dans la ville de Beni, salue cette action qui, selon lui, va améliorer la santé des prisonniers ainsi que des agents de police. Nasson Mourara les dit à Marc Emarofimbo.
Nous nous sentons d'abord à l'aise et vous voyez que la santé c'est la priorité d'un être humain. Nous sommes des policiers et nous avons aussi besoin d'être en bonne santé. C'est pourquoi notre entourage doit être bien assaini. C'est de cette façon que nous avons invité la Croix-Rouge pour qu'elle vienne nous aider dans ce cas, d'assainir notre enceinte, l'état-major et voir comment aussi assainir les décachots qui se trouvent ici chez nous au commissariat urbain de la police nationale congolaise. C'est là pour prévenir les cas de maladie. Vous savez que les cachots d'abord est fréquenté par tout le monde et on ne sait pas qui porte quel microbe. C'est comme ça que normalement les cachots doivent être toujours propres parce que c'est un lien bien que réservé pour les indisciplinés mais aussi qui doit être propre parce que tout être humain doit bénéficier d'une bonne santé. Et notre enceinte, ça fait un certain temps qu'il y a eu des immondices qui sont gardés ici et que nous avions besoin que ces immondices soient déplacés. Nous sommes très satisfaits de cette collaboration de la Croix-Rouge envers la police nationale congolaise.
Santé, comment accélérer et pérenniser les services de lavage des mains avant et après les grandes épidémies en République démocratique du Congo? C'est l'objectif d'un atelier de réflexion sur les services de cette pratique tenue ce lundi 7 avril à l'école de santé publique à Kinshasa. Les participants ont réfléchi sur les moyens et stratégies qui permettent d'accélérer et de pérenniser les services de lavage des mains, gestes simples mais combien protecteurs contre les microbes et les maladies. Jean-Jacques Diabanza, chef des divisions hygiène et protection, explique pourquoi le lavage de mains doit être un geste habituel. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
L'épidémie, il faut se laver les mains. Mais après l'épidémie, les gens ne se lavent plus les mains. Quand on va voir les maladies fécho-orales, beaucoup de fièvres typhoïdes, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, eh bien, ils disent non, il faudra réfléchir. Et c'est comme ça que M. le secrétaire général a instruit notre directeur pour dire qu'il faut organiser une matinée pour réfléchir sur le lavage des mains. Mais je crois que l'essentiel, ce que nous devons retenir, c'est que le lavage des mains, c'est quelque chose que l'on ne doit pas abandonner. Pas parce qu'il n'y a pas d'épidémie qu'on ne va pas se laver les mains. Donc, que ce soit en épidémie ou en dehors des épidémies, le lavage des mains doit être notre ami de tous les jours. De tous les jours, parce que ça nous permet de nous débarrasser de tout ce que nous prenons ça et là, portière, sur la moto, dans les toilettes. Vous avez les téléphones à tout moment que nous déposons où, on ne sait pas, pour que tous ces germes-là ne puissent pas entrer dans la bouche.
Cet atelier a réuni 45 agents et professionnels de santé. Il a été organisé par le secrétariat général du ministère de la Santé publique avec l'appui de l'UNICEF.
Actualité internationale.
Dernière étape de l'escalade entre l'Algérie et le Mali. Le 17 avril, les deux pays se sont mutuellement fermés leurs espaces aériens. C'est la destruction, la semaine dernière, d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays qui a mis le feu aux poudres. Concrètement, tous les avions en provenance ou à destination du Mali n'ont plus le droit de voler dans le ciel algérien et réciproquement, une disposition qui concerne les vols militaires, mais surtout les vols civils commerciaux affrétés par des compagnies nationales et internationales.
L'invité.
Au Kassai oriental, très peu de femmes chefs d'entreprise locales s'intéressent aux activités de la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est ce qu'a déclaré vendredi dernier le directeur provincial de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, lors de la sensibilisation des femmes chefs d'entreprise locales organisée par son établissement. Muki Mukaya, directeur provincial de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, s'entretient avec Esther Dalafina.
Monsieur Muki Mukaya, bonjour. Vous venez donc d'organiser une activité. Vous avez invité quelques femmes de la Fédération des entreprises du Congo. Quel est le but de cette activité?
L'objectif premier était ce en rapport avec le mois de la femme. Nous avons souhaité réunir les femmes entrepreneurs, bien sûr pas toutes les femmes entrepreneurs, mais les femmes entrepreneurs qui ont bien sûr fait leurs preuves, mais aussi nous sommes partis d'un constat où les nombres de demandes d'attestation, de demandes d'affiliation à l'ARSP, mais aussi ceux qui viennent généralement ou qui s'intéressent à la sous-traitance au niveau du Kassai oriental restent les hommes. Et donc nous avions voulu aussi non seulement éveiller la participation des femmes kassaïennes et entrepreneurs pour s'intéresser aux différentes activités autour de la sous-traitance, proprement dit, parce que la sous-traitance, en soi, comme vous le savez, ce sont des activités externalisées avec les partenaires ou les entreprises, les PME à capitaux congolais. Et donc nous avions remarqué seulement qu'il y a un faible taux de participation des femmes. Et nous voulons que la femme aussi au niveau du Kassai oriental puisse s'éveiller et pourquoi pas demain arracher aussi des grands marchés comme on le voit dans d'autres provinces parce que jusque-là, nous ne voyons pas beaucoup de femmes s'intéresser à la sous-traitance. Et donc les femmes sont appelées aussi à s'intéresser à la sous-traitance.
Oui, vous parlez du faible taux de participation des femmes dans les activités de sous-traitance dans les secteurs privés. Est-ce que vous pouvez évaluer cela en termes de pourcentage?
Je serais ravi de vous donner un pourcentage de façon chiffrée que probablement mes services pourront vous le communiquer dans les jours qui viennent. Mais nous constatons effectivement, comme vous pouvez le voir, je pense que sur la ville, en ce qui concerne la fourniture ou les marchés de sous-traitance exécutés dans les secteurs des BTP sont plus dominés par les hommes. Mais nous voulons ici sensibiliser et appeler les femmes aussi à pouvoir combler les secteurs qui jusque-là reste vacant.
D'après vous, quelles sont les causes de ce faible taux de participation des femmes dans les activités de sous-traitance?
Naturellement, il y a d'abord la culture, mais aussi l'information. C'est l'une des raisons qui fasse que, par cette activité, nous avons ici martelé et sensibilisé en évoquant ou en brassant un peu les différentes activités de sous-traitance qui pourraient exister ou qui existeraient ici actuellement dans la ville. Et nous avons prévu à cet effet une prochaine rencontre où les activités de façon détaillée et autour de la sous-traitance, autour des entreprises qui existent ici, pour lesquelles nous espérons qu'elles pourront se spécialiser ou orienter leurs activités dans ce sens.
Qu'est-ce que les femmes chefs d'entreprise peuvent faire pour obtenir l'attestation auprès de l'ARSP?
Alors, pour obtenir l'attestation auprès de l'ARSP, je rappelle encore que l'attestation est gratuite. Il y a des prérequis, c'est qu'il faudrait produire certains documents qui sont bien sûr demandés. Il faut présenter un RCCM, un numéro d'identification nationale, des statuts notariés, une affiliation à la CNSS, un numéro d'impôt et puis prouver ou fournir la preuve de l'attestation fiscale, que vous êtes en ordre avec l'administration fiscale.
Quels sont les avantages qu'offre l'obtention de l'attestation de l'ARSP.
Alors, le premier avantage, c'est d'abord le fait d'avoir l'information et d'être dans notre base de données, parce que vous êtes dans une base de données où vous êtes les premiers à obtenir l'information, à être informés de la disponibilité, de l'existence d'un marché donné ou d'un appel d'offres donné qui est lancé. Mais aussi, il y a des formations que nous organisons, que nous pouvons solliciter avec l'appui des autres structures pour pouvoir renforcer en capacité les sous-traitants. Quels sont ?
Monsieur Mouki Moukaya, je vous remercie.
Notre invité a été interrogé par Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo, la mise en onde de Pierre Diassinois. Merci de l'avoir écouté.